Voilà, je vous invite à ouvrir la bonne parole du Seigneur dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, verset que nous connaissons bien. On oublie parfois le contexte de ce verset. Le verset 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Amen. Dieu connaît l'avenir et Dieu connaît notre avenir. Et j'aime beaucoup remettre les versets dans leur contexte, parce que lorsqu'on lit ça de manière rapide, eh bien, on a tendance à dire, eh bien, merci Seigneur, tu connais mon avenir. Mais ce verset, cette parole est adressée au peuple alors qu'il est en exil. Cette lettre, ce message, cette vision est adressée à des hommes et à des femmes qui sont captifs. Et mon frère, ma sœur, mon ami, eh bien, peut-être que si toi aussi, ton cœur est comme en captivité, sache bien que Dieu a un avenir pour toi. Lorsque l'on est captif, lorsque l'on est en prison, lorsque l'on est entre quatre murs, alors, eh bien, notre avenir nous semble bouché, notre avenir nous semble fermé. Pour autant, eh bien, nous pouvons avoir l'assurance que nous, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, eh bien, Dieu a un avenir pour nous. Dieu a des projets de paix pour nous. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Alors, lorsque j'imagine les captifs en train de lire cette lettre, en train de recevoir ces paroles, ils devaient se dire, mais quel décalage entre la promesse de Dieu et ce que nous pouvons vivre. Quel décalage. Lorsque nous pouvons regarder nos vies, on peut se dire la même chose. Quel décalage, Seigneur. Quel décalage entre ce que je peux vivre, ma maladie, mes difficultés familiales et ce que tu me promets. Ce n'est pas un secret. Oui, il y a un décalage entre Dieu et nous. Dieu est Dieu et nous, nous sommes nous. Dieu est tout-puissant, Dieu connaît tout, Dieu est omniprésent. Nous, nous sommes de simples bipèdes, parfois bien limités, dans un corps qui est lui-même limité, avec une vision limitée. Quel décalage. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le projet que Dieu a pour votre vie? Nous, quand on pense projet pour notre vie, on le pense parfois en mode financier. On le traduit en mode santé. On le traduit en mode famille. On le traduit en mode réussite professionnelle. Pour nous, le dessein de Dieu doit rentrer dans ce modèle-là. Mais quel est le projet de Dieu pour nous? Quel est le projet de Dieu pour chaque homme et pour chaque femme? La Bible affirme, et Paul l'affirme, eh bien, lorsqu'il écrit dans la première à Timothée, que eh bien, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que nous vivions d'espoir, de simples bénédictions ponctuelles, mais Dieu veut que nous vivions d'espérance. Dans Romains 12, Paul invite les Romains à se réjouir en espérance. Et le projet de Dieu pour toi, mon frère, le projet de Dieu pour toi, ma sœur, c'est que tu rentres dans l'éternité. Et c'est là, c'est dans ce but que finalement Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. C'est dans cette démarche-là que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et j'ai fort sur mon cœur que peut-être le peuple de Dieu, que peut-être certains parmi nous ont perdu cette vision de l'éternité. Dieu veut te redonner, Jésus veut te redonner cette vision de l'éternité. Tu es focalisé sur tes difficultés aujourd'hui, tu es focalisé sur tes maladies, tu es focalisé sur tes combats sur cette terre, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais retrouve cette vision de l'éternité. Tu as peut-être perdu des choses, ton cœur est peut-être érodé par les combats, fatigué par la vie. Il est comme captif. Mais Paul, même en captivité, pouvait écrire aux Philippiens que la mort lui était un gain. Il pouvait écrire aux Philippiens, en toute chose, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et il le répétera, réjouissez-vous. Où en est ta vision de l'éternité? Le plan de Dieu pour toi. Et je vais être très schématique et un tantinet provocateur. Accrochez-vous à vos chaises. Ce n'est pas que tu sois heureux sur cette terre. Vous me détestez, c'est normal. Mais c'est que tu rentres dans l'éternité. C'est que tu rentres dans l'éternité. Trop souvent, on l'oublie. Et puis le pharaon de ce monde, le diable, agit de la même manière. Il nous surcharge, il nous demande la même somme de travail, mais il faut qu'on aille chercher la paille. Il faut qu'on court à droite, il faut qu'on court à gauche, il faut qu'on règle tel problème, telle difficulté, telle chose. Et résultat des courses, on baisse les yeux. Et on se retrouve à regarder au niveau de la terre. Et quelque part, nous n'avons plus qu'une simple vision, qu'une simple visibilité, pardon, et nous n'avons plus de vision. La visibilité s'arrête à ce que nous pouvons voir. La vision, elle, va à ce que nous pouvons croire. Alors, me direz-vous, ça c'était le premier point, pardon, pour les puristes, pour ceux qui prennent des notes. Quel est le plan de Dieu pour nous? Le deuxième, me dire, mais c'est bien beau tout ça. Mais est-ce que Dieu s'occupe quand même de moi? Oui. La Bible nous affirme que Dieu, même sur cette terre, même s'il ne nous promet pas une vie rose, même s'il ne nous promet pas une vie toujours facile, même s'il ne nous promet pas une vie où tout roule, eh bien, Dieu nous fait, de par sa personnalité, s'occupera toujours des siens. Beaucoup ce verset de l'évangile de Matthieu, lorsque eh bien, Jésus dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Pourquoi? Les bons sont sa création, les méchants sont sa création. Et Dieu s'occupe de sa création. Mais j'aime à penser également que, de la même manière que David le dira, jamais je n'ai vu le juste mendier son pain. J'aime à penser qu'il a un regard particulier sur ses enfants. Et ses enfants, c'est qui? Ses enfants, c'est ceux qui sont rentrés dans son plan. C'est ceux qui sont rentrés dans son plan. Il y a ce verset de l'Épître aux Romains qu'on connaît tous par cœur et que j'aime souvent citer. Toute chose et qui connaît la suite? Ne donnez pas la réponse. Qui connaît la suite? On la connaît moins. Et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que Dieu pourra prendre soin de nos vies. Dieu pourra garder nos vies. Dieu pourra protéger nos vies. Dieu pourra finalement encadrer nos vies. À partir du moment où nous rentrons dans son plan, à partir du moment où nous rentrons dans ses projets, mon frère, ma sœur, Dieu ne pourra pas te protéger si tu es en dehors des projets de Dieu. Dieu ne pourra pas te garder si tu es en dehors des projets de Dieu. Dieu ne peut pas te garder si tu es en dehors de la vision de Dieu pour ta vie. Et le plan de Dieu, il commence où? À la conversion, au salut. Lorsque tout d'un coup, eh bien, le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous convainc de justice, nous convainc de jugement. Commence à ce moment-là où finalement on se dit, mais ma vie, elle rime à quoi sans Jésus? Commence à ce moment-là où on se dit, mais Seigneur, j'ai un vide dans mon cœur, viens le combler. Viens combler ma vie, viens combler mon cœur. J'ai besoin de quelque chose d'autre, j'ai besoin de quelque chose de plus. Ma vie est fade, ma vie est triste, ma vie est sans sel. J'ai besoin de quelque chose, j'ai une soif spirituelle. Et là, tout d'un coup, une révélation, quelque chose vient bouleverser notre esprit. Et il y a une connexion qui se fait avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit vient et nous révèle Dieu, nous révèle le Père. Tout d'un coup, l'existence de Dieu devient quelque chose de matériel, devient quelque chose de réel, devient une évidence. Et à partir de ce moment-là, parce que c'est une évidence, il y a une soumission. Et ça, c'est important. Parce qu'entrer dans le plan de Dieu, c'est une bonne chose, y rester, c'est encore mieux. Je pars un peu en live. Qu'est-ce qui peut nous faire sortir du plan de Dieu ? Le péché ? Mais qu'est-ce qui motive notre péché ? L'apôtre Jacques dira une chose, dira que c'est nos sens qui nous attirent, qui nous amorcent dans la version seconde. Pour rester dans le plan de Dieu, le seul gouvernail valable qui soit pour la coque de noix que sont nos vies, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsque je rentre dans le plan de Dieu, eh bien, j'accepte, lorsque je me convertis, j'accepte l'autorité des Écritures saintes sur ma vie. Ce qui signifie, en clair, que je ne suis plus guidé par mes sentiments, par ce que je ressens. Ce qui signifie, en clair, que je ne suis plus guidé par ma volonté, bien que je la conserve, parce que la conversion n'est pas un formatage, n'est pas un aliénage. Ça existe d'ailleurs, ça, aliénage ? D'accord. On va... Une aliénation, merci. Je viens de faire un néologisme. Ma femme n'est pas là pour prendre des notes, je suis sauvé. La conversion découle du fait que je ne fais plus ce dont j'ai envie, ce que j'ai envie. Mais mes désirs se portent vers mon bien-aimé. Mes désirs se portent vers les désirs de Dieu. Et à partir de ce moment-là, je reste dans le plan de Dieu. Où tout n'est pas facile. Où tout n'est pas simple. Mais où je ne suis plus brinque-ballé par mes sentiments. Rien n'est pire qu'un sentiment pour guider une vie. Rien n'est pire qu'une sensation pour guider une vie. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui changent au gré des circonstances. Parce que aujourd'hui je me sens bien, demain je ne me sentirai pas bien. Aujourd'hui j'aime, demain je n'aime plus. Aujourd'hui je me sens aimé, demain je ne me sens plus aimé. Je ne me sentirai plus aimé. Voilà, je sens. Pour les chrétiens, aujourd'hui je sens la présence de Dieu. Demain, quand mon patron me hurlera dessus, elle sera bien loin. Pourtant, Jésus reste au même endroit dans notre cœur. On ne fonctionne pas à ce que nous ressentons, mais nous fonctionnons à ce que nous croyons. À ce que nous croyons. Pour rester dans le plan de Dieu, la seule chose qui m'y fait rester, c'est la parole de Dieu. C'est une lampe sur mon sentier. C'est le gouvernail de ma vie. Et elle, l'apôtre Pierre, nous révèle qu'elle est éternelle. Que si la fleur fane, l'herbe sèche, la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Le plan de Dieu, premièrement, c'est que soyons dans l'éternité. Deuxièmement, le plan de Dieu, c'est que nous y restions. C'est une route qui nous y emmène. Alors, troisième axe de notre réflexion, c'est de nous dire, d'accord, mais dans ce plan, quelle est ma part et quelle est la part de Dieu ? Parfois, dans notre vie chrétienne, je fais de la place, dans notre vie chrétienne, on peut penser, et l'image que j'ai eue, c'est qu'une fois qu'on se convertit, on est sur un tapis roulant et que l'on est entraîné, que c'est Dieu qui nous guide comme ça, un petit peu comme un pantin ou une marionnette, et que le tapis, comme ces grands escalators que l'on peut trouver dans les centres commerciaux, il nous emmène, vous savez, en haut. On est brinque-ballé, c'est ce qu'on appelle un petit peu le fatalisme, moi je préfère l'appeler le laxisme. C'est pas ça. Dieu, de toute éternité, a tracé un plan. C'est vrai. Le psaume 139 nous révèle que tous les jours de notre vie ont été inscrits sur son livre. C'est vrai. Dieu sait de quoi sera composée chaque journée. Psaume 118 nous dit « Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous tous un sujet de joie. » Donc, c'est l'Éternel qui l'a faite. Et j'aime bien rajouter que dans chaque journée, il y a un potentiel de joie. Il y a un potentiel pour se réjouir. C'est beau, ça. Alors réjouis-toi. J'ai du mal aujourd'hui. On a fait une raclette avec les jeunes hier, à mon avis, j'aurais pas dû.
Donc, nos vies ne sont pas téléguidées. Simplement, voilà ce qui se passe. C'est à nous de rechercher le plan de Dieu pour notre vie. De la même manière que lorsque vous voulez aller à Marseille, vous oubliez que les GPS existent, d'accord ? Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous prenez, vous savez, départ Nantes, arrivé Marseille, vous prenez votre carte et vous dites, voilà, je vais passer par ça, par là, par là, par là, par là. Et vous faites un itinéraire. Et j'ai envie de dire que, eh bien, l'itinéraire avec Jésus, il faut le découvrir chaque jour. Il faut le découvrir, il se découvre par tronçon. On connaît la destination, mais les voies que l'on a explorées, finalement, c'est Dieu qui nous les révèle, c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Mais ce n'est pas un grand quelque chose qui est téléguidé comme ça. Les desseins de bonheur, projets de bonheur que Dieu a formés sur nous, c'est notre charge d'y rentrer. Oh, Dieu nous donne bien des choses. L'apôtre Jacques dira que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera sans juger. Parfois, on a besoin de sagesse pour trouver le bon itinéraire. Eh bien, nous savons que notre Dieu nous la donnera. Parfois, nous avons besoin de lumière. Eh bien, nous savons que notre Dieu nous l'accordera. Ça va ? Comment ça se trouve ? Comment ça se trouve, le plan de Dieu ? Est-ce que l'image que je reprends, c'est l'image de mon navire ? On dresse les voiles et puis le Saint-Esprit souffle ensuite ? Non. Oui. Il y a des périodes de notre vie comme ça où, effectivement, on se sent guidé d'une manière particulière. OK. Mais ce qui est important pour trouver le plan de Dieu, c'est de le chercher de manière individuelle. C'est-à-dire que le plan de Dieu pour Charline, même si la destination est la même, l'itinéraire n'est pas le même que pour Jacqueline, même si ça se finit de la même manière. Vous voyez, je deviens poète. La destination est la même pour Paul et pour Roger, mais l'itinéraire est différent. L'itinéraire est différent. Charge à chacun d'entre nous de trouver quel est l'itinéraire pour notre propre vie. Quel est l'itinéraire pour nous, par là où le Seigneur veut que nous passions. Et ça, j'ai envie de dire que ça doit être une préoccupation pour nous. C'est un combat de chaque jour. Et ça, on peut l'oublier. On peut oublier de se dire, Seigneur, c'est quoi mon itinéraire ? C'est quoi les étapes ? C'est quoi les endroits ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ou alors est-ce qu'il faut qu'il y ait un réaiguillage ? Est-ce que dans ma mentalité, est-ce que dans mon cœur, je suis encore debout ? Ou alors est-ce que je me laisse un petit peu flotter ? C'est l'auteur des Hébreux qui dit qu'on peut se laisser flotter à tout vent de doctrine, si mes souvenirs sont bons. On peut se laisser emporter comme ça. Et finalement, c'est plus nous qui gouvernons nos vies. C'est plus nous qui dirigeons nos vies, mais ce sont les circonstances de notre vie qui nous dirigent. Parce qu'on a perdu cette vision. On se laisse brinque-baller un petit peu dans tous les sens. On n'a plus cette préoccupation de garder un cap. Restez dans le plan de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, replace cette vision de l'éternité. Ce qui doit guider tes journées, ce qui doit guider ton cœur, sans non plus devenir quelque chose d'envahissant, mais ce qui doit être un de tes critères de choix, ce qui doit te permettre de faire des choix, c'est de se dire, finalement, est-ce que ce que je vais faire m'empêche ou serait susceptible de m'empêcher d'entrer dans l'éternité ? Serait susceptible d'ouvrir une brèche qui m'empêchera d'entrer dans l'éternité ? Est-ce que ce sera susceptible de me faire sortir du plan de Dieu, de me faire sortir du dessein de Dieu ? De suite, ça prend un autre relief et ça nous pousse à la réflexion.
As-tu réfléchi sur cette notion d'éternité ? Il y a des chrétiens qui n'ont pas cette vision de l'éternité. Ils ont cru en Dieu parce qu'ils ont été guéris. Peut-être as-tu cru en Dieu parce que tu as été guéri. Mais tu n'as pas cette vision du salut. Dieu est pour toi un Dieu qui fait des miracles. Point barre. Non, Dieu n'est pas qu'un Dieu qui fait des miracles. Dieu est un Dieu qui sauve. Hosanna, Dieu sauve. Dieu n'est pas qu'un Dieu tout-puissant, mais c'est un Dieu qui, eh bien, aime et veut ses enfants auprès de lui pour l'éternité. Quand Adam et Ève ont été créés, c'était pour passer l'éternité avec Dieu. Dieu les voulait avec eux. Et puis le péché est arrivé. Ève a encore une fois influencé son mari. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, d'accord, Adam avait oublié de garder le jardin. C'est vrai, le serpent, un animal des champs, n'avait rien à faire dans le jardin. Bon. D'accord, mesdames, je vous donne un argument. Mais Dieu voulait Adam et Ève avec lui. Et Dieu te veut avec lui. Le plan de Dieu, c'est l'éternité. Alors, autre question, c'est un peu décousu, ce sont des réflexions un petit peu personnelles que je jette ce matin dans vos cœurs. Quatrième réflexion, sommes-nous les seuls responsables du plan de Dieu pour nos vies ? C'est une bonne question. Ma réponse, c'est oui, non, peut-être. Ben oui, j'ai une formation un peu littéraire, vous m'excuserez. Oui, quand les choix nous concernent nous-mêmes. Effectivement. C'est moi qui en suis responsable. L'homme est toujours responsable de ce qu'il fait. Dieu ne nous forcera jamais à faire quelque chose. Allez, je vais me faire un petit plaisir. Parfois, j'entends certaines prières dans d'autres églises, pas ici. Hein, pas ici, ni même à Châteaubriant, parce qu'il y a les chrétiens de Châteaubriant qui sont là ce matin. D'habitude, je leur tape dessus, mais là, ils sont là, donc je peux pas. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à lire ma Bible. C'est bien. Mais je dirais que si on se contente de prier, c'est une condition qui est peut-être nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Nous, on a toujours le choix. Toujours. Donc, oui, nous sommes responsables de nos choix quand nous sommes les seuls à les faire. Mais parfois, il arrive que nous ne puissions pas rentrer dans le plan de Dieu parce que les circonstances peuvent être contraires, parce que nous ne sommes pas les seuls décideurs en la matière. Moïse aurait aimé rentrer dans le pays de Canaan sans avoir les 40 ans de désert. Mais lorsque les 12 espions sont arrivés et qu'ils ont dit à Moïse, enfin que 10 d'entre eux ont dit à Moïse, écoute, c'est sympa ton truc là, mais c'est vrai, il y a de bons restaurants, on y mange très bien, mais simplement, il y a des géants et on ne préfère pas s'y frotter. Moïse aurait aimé rentrer, mais le peuple n'était pas prêt. Josué et Caleb auraient voulu rentrer, mais il y en avait 10 qui n'étaient pas prêts.
Qu'ont-ils fait ? Ils ont tourné en rond pendant 40 ans, mais le plan de Dieu s'est accompli avec une nouvelle génération. Dans nos vies, et peut-être est-ce le cas de quelqu'un, tu es frustré parce que tu as reçu un appel de Dieu, mais ton époux, ton épouse, ne le partage pas, ne veut pas s'y engager avec toi. Un projet, une mission de la part de Dieu. Ça te blesse, ça te fait mal. Et tu te poses cette question de dire, Mais quid de mon salut? Quid de mon rôle de chrétien? Parce que toute ta vie s'était façonnée autour de ce projet que tu as reçu dans ta jeunesse. Sache une chose, et on va le voir dans le point suivant, c'est que le plan de Dieu n'est pas fixe. On peut à certains moments de nos vies avoir fait des choix coupables. Qui ont, quelque part, hypothéquer le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu n'est pas fixe. Il fait concourir toute chose à notre bien. On peut être entouré par un incroyant qui quelque part hypothèque notre rêve. Est-ce pour autant que Dieu en a fini avec nous? Bien sûr que non. Le plan de Dieu n'est pas fixe. Ou plutôt, le plan de Dieu n'est pas figé. On a pu commettre des péchés. David en a commis. Des plus horribles que ce que nous pouvons imaginer commettre un jour. Quoique celui qui est debout prenne garde de tomber. Dieu a relevé David. Et j'aime beaucoup cette image de Salomon. Salomon, c'est qui? C'est pas l'enfant de l'adultère, mais c'est l'enfant du couple de l'adultère. David et Bathsheba. L'enfant de l'adultère, lui, est parti. Vous savez comment Nathan, le prophète, va appeler Salomon? Je vous passe le terme hébreu, mais chéri de l'Éternel. Du couple de l'adultère. Il va naître un chéri de l'Éternel. Dieu ne le voulait pas. Mais parce que David s'est repenti, sincèrement, et pas en façade, a accepté de porter le sac et la cendre. Alors la grâce de Dieu est passée, et le plan de Dieu a intégré Salomon comme chéri de l'Éternel. J'ai une pensée de Dieu. Une femme parmi nous a peut-être avorté et a ainsi hypothéqué une vie qui aurait dû venir au monde. C'est un boulet dans ton cœur. C'est un poids dans ton cœur. Et tu dis, je ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu. Je ne peux pas être dans le plan de Dieu après ce que j'ai fait. Le plan de Dieu n'est pas figé. Et le plan de Dieu est plein de grâce. Que se passe-t-il lorsque nous en sortons? C'est le cinquième ou le sixième point, peu importe. Je tiens à préciser que tous les grands hommes de Dieu en sont sortis. Tous. Moïse, David. Simplement, Dieu réaiguille trois options qui me sont venues à l'esprit. La première, il y a un péché. Nous savons que la grâce de Dieu est capable de pardonner nos péchés, est capable de réparer les conséquences de nos péchés. Deuxièmement, le plan de Dieu, on l'a vu avec Salomon, d'accord? Deuxièmement, le plan de Dieu est fermé, est bouché de manière irrémédiable. Cet enfant qui n'est pas venu au monde. Que se passe-t-il? Eh bien, Dieu réaiguille les choses. Dieu réaiguille. Dieu redonne. Finalement, une autre vie, quelque chose de neuf, avec une restauration du cœur. C'est ce qui s'est passé pour David. Son cœur a été restauré. J'aime beaucoup l'image de David qui, alors qu'il vient de perdre l'enfant de l'adultère, justement, là, alors qu'il est en train de pleurer, alors une fois qu'on lui annonce la mort de l'enfant, il va se lever, il va parfumer sa tête et il va regrimper sur le trône. Il l'a fait certainement par devoir, mais également il l'a fait avec foi. Et ce que j'ai envie de te dire, ma sœur, remonte sur le trône. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cet événement, et là je m'adresse qu'à une seule personne. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cet événement qui a cassé ta vie. Qu'il faut que tu hypothèques tout le reste et tout ce que tu as pu faire, tout ce que Dieu a pu mettre et tout ce que Dieu attend de toi. Et on peut appliquer ça à chacune de nos vies. Même si, à certains moments, le plan de Dieu est bouché, parce qu'il en est ainsi. Dieu établit des voies de détour. Dieu rechange les choses, de manière à ce que la destination finale soit encore valable, et de manière à ce que nos vies soient gardées entre les mains du Maître. Que le Seigneur nous bénisse. En conclusion, où en est ta vision de l'éternité? Y penses-tu encore? Y penses-tu? Ou alors t'es-tu laissé totalement aspirer? Totalement aspiré par les choses d'en bas. Que le Seigneur te bénisse. On va courber nos fronts et puis on va prier le Seigneur.